accueillir cet après-midi M. Alain Cadec, qui est président,
non. Président de la vice-président
de la commission à la commission du,
la commission de la pêche du Parlement.
La pêche, voilà.
Oh, excusez-moi.
Qui est donc député coup, européen. Et donc il nous fait l'honneur de venir ici pour vous parler d'Europe.
Ah bah oui.
Alors l'Europe, c'est un sujet donc vous connaissez bien pour pratiquer hein, la matière européenne, si je puis dire, depuis maintenant
5 ans,
un premier mandat,
oui.
Que tu es un deuxième.
Bah oui, puisque je suis tête de liste.
Voilà. Monsieur Alain Cadec est tête de liste.
Cadec.
Pardon, excusez-moi. Cadec est tête de liste donc pour l'UMP.
Oui.
Et donc pour les prochaines élections donc européennes. Et donc nous allons parler d'Europe. L'Europe, aujourd'hui, nous en avons un sentiment mitigé, un peu nostalgique, parce qu'il y a eu cet élan extraordinaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une Europe qui s'est construite sur la communauté de souffrance, hein, l'idée de mettre fin à ces guerres qui ont déchiré l'Europe hein, pendant un siècle, trois guerres fratricides, notamment entre la France et l'Allemagne. Et puis l'Europe, c'était un horizon d'attente après la décolonisation. Ça a été cet espace dans lequel se sont projetés notamment les Français suite au drame algérien. C'était une grande promesse. C'est encore une grande promesse. Et ensuite, il y a eu les années 80 avec un rapprochement notamment de la gauche vers l'Europe, parce que l'Europe a été surtout portée par la famille chrétienne-démocrate. Hein, les révérends pères, comme on disait, l'Europe des six, qui était portée par surtout les partis
du centre et de la droite.
Et de la sensibilité catholique. Et donc un rapprochement également des socialistes dans les années 80, hein, qui notamment vont se faire les chantres de l'euro, ce qui n'était pas gagné, je dirais, enfin en tout cas ce n'était pas au programme au début des années 70. Et puis au moment du programme commun de la gauche, avant que la gauche n'arrive au pouvoir en 81. Et alors dans les années 90, avec à la fois la chute du mur de Berlin et également donc l'entrée dans la mondialisation, hein, avec notamment la révolution Internet, l'Europe va devoir se reconfigurer, l'Europe va devoir emprunter de nouveaux espaces. Il y a eu le référendum de 2005 et le refus des Français, hein, de cette
constitution
européenne. Et depuis, l'Europe se cherche. L'Europe secrète même, suscite même une certaine nostalgie parce qu'il semble qu'elle soit en panne. Alors, les pannes européennes, on va les trouver dans l'Europe sociale, hein, qui tarde à se constituer. La question également de l'élargissement ou de l'intégration, on s'est beaucoup élargi, on a créé le grand marché, mais en même temps, les institutions tardent là aussi vraiment à intégrer notamment les citoyens, se posent donc à la question de la démocratie européenne, comment rapprocher le citoyen de l'Europe. Donc les chantiers sont très importants et M. Cadec va nous en parler en expert. Et donc je lui cède immédiatement la parole. Et voilà. Ensuite, vous aurez le loisir de lui poser des questions qui sont, je pense, très multiples parce que ça va du métier.
Vous voyez, oui. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier.
On ne devrait peut-être pas dire un métier.
Non,
tâches,
c'est hein, pas.
Parce qu'on
voilà,
n'est pas abonné.
Voilà.
C'est voilà. Tous les 5 ans.
On est des intermittents du spectacle.
Anna Arendt, c'est une tâche. Hein, que la politique, c'est pas une. Ouais. Voilà. C'est une tâche avec un accent sur ton. Bon, donc, nous reviendrons peut-être sur tous ces sujets. Je lui laisse la parole en le remerciant encore de votre
venue. D'abord, merci, monsieur le directeur, de m'avoir invité. Je remercie également François Cuilandre, puisqu'il enseigne ici un petit peu à la fac. Et nous sommes copains depuis très longtemps, puisque nous avons partagé la vice-présidence d'un syndicat mixte qu'on connaît bien en Bretagne, qui s'est appelé le syndicat Amoco pendant longtemps et qui s'appelle le syndicat Vigipol. Et c'est là qu'on a eu l'occasion de se rencontrer avec François et de sympathiser, malgré nos différences politiques, puisque lui-même appartient au Parti Socialiste et moi à l'UMP. Comme quoi, vous savez, faut savoir parfois faire fi de tout ça. On peut avoir des amis partout, heureusement. Donc je voulais le remercier de m'avoir invité aujourd'hui. Et puis vous dire que je suis très heureux de pouvoir intervenir devant vous. Alors, Monsieur le Directeur nous a fait une présentation, j'allais dire historique, c'est normal, puisqu'il est historien de formation de l'Union européenne. Alors, le thème un peu de notre échange cet après-midi, c'est d'imaginer un petit peu quelle Europe on veut pour demain. Alors d'abord, avant de parler de l'Europe qu'on veut pour demain, évidemment, il va peut-être falloir qu'on parle de l'Europe qu'on a aujourd'hui. Alors, Monsieur le Directeur vous l'a dit tout à l'heure, je suis député européen depuis 2009. Je suis aussi conseiller général des Côtes d'Armor. J'ai pendant 10 ans été premier adjoint au maire de Saint-Brieuc et vice-président de la communauté d'agglomération. En qualité de conseiller général, je suis président du groupe de l'opposition du conseil général des Côtes d'Armor. Et je suis président de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je suis président de la commission locale de l'eau de la baie de Saint-Brieuc et du comité algues vertes. Ça vous dit quelque chose, les algues vertes, peut-être? On part de l'Europe, là, mais c'est un dossier extrêmement important et extrêmement intéressant. Mais je ne suis pas venu ici pour vous parler des algues vertes, je suis venu ici pour vous parler de l'Europe. Alors, au Parlement européen, je suis vice-président de la commission de la pêche, qui est une commission, évidemment, qui concerne particulièrement notre région, la Bretagne, bien entendu, mais pas seulement, la Galice, l'Irlande, les pays du Nord, la mer Baltique. Et puis je suis aussi membre titulaire de la commission du développement régional, qui est la commission qui gère la politique de cohésion. Vous savez, le FEDER, ça vous dit quelque chose, vous aurez l'occasion dans vos futurs métiers, pour certains d'entre vous, de solliciter les fonds européens, le FEDER, le FEADER et autres. Et donc la commission du développement régional a en charge cette partie du fonctionnement de l'Union européenne. Alors, rapidement dire que, on vous l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'Europe elle s'est construite sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, il ne faut jamais l'oublier. Et il ne faut jamais oublier non plus que depuis 1945, l'Europe est en paix. Alors, il y a eu des guerres à l'intérieur de l'Europe, mais qui n'étaient pas dans l'Union européenne. Au sein même de l'Union européenne, il n'y a jamais eu de conflit. Et je pense, ce n'est pas moi qui le dis, mais tout le monde peut le dire, que s'il n'y a pas eu de conflit, c'est justement parce qu'il y avait l'Union européenne. L'Union européenne qui a grandi petit à petit au fil des adhésions. Et les seuls endroits où il y a eu encore des conflits sont des endroits de l'Europe géographique qui n'étaient pas dans l'Union européenne. C'est les Balkans, par exemple, où il y a eu la guerre de Bosnie, par exemple. Demain, d'ailleurs, on peut imaginer, même si l'élargissement n'est pas aujourd'hui quelque chose auquel que nous souhaitons de manière importante, l'élargissement à la Serbie peut être imaginé, puisque la Serbie est en processus d'adhésion, et que si elle rentre dans les critères de droits de l'homme, les critères du respect de la Charte des droits fondamentaux, les critères économiques, les critères de dette publique, on peut imaginer que la Serbie pourrait rentrer dans les années qui viennent dans l'Union européenne. Restera le cas de la Bosnie, de la Macédoine, du Kosovo, qui seront à régler dans les années à venir. Mais c'est vrai que c'est un peu une espèce d'enclave un peu au sein de l'Europe géographique, les Balkans, et qui sera nécessaire d'intégrer à l'Europe. Alors, c'est vrai que, je le disais, j'ai mis un petit tweet hier soir en rentrant de Strasbourg, où nous étions en séance plénière pour dire que je venais ici, et pour parler de l'Europe de demain. Je le disais tout à l'heure, l'Europe de demain, nous, quand je dis nous, c'est les députés, qu'ils soient encore une fois de gauche ou de droite, on la veut plus politique et moins technocratique, c'est clair. Aujourd'hui, l'Europe, elle est perçue comme une espèce de grande machine très technocratique. Et c'est pas faux. Mais on vous parlait tout à l'heure de la Constitution de 2005 qui avait été donc rejetée. Heureusement, à l'époque, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel avaient souhaité le traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne, qui a été ratifié en 2009, le dernier pays à le ratifier, c'était l'Irlande, permet d'avoir, je dirais, une constitution à minima, et qui donne beaucoup plus de pouvoir au Parlement qu'il n'en avait auparavant. Et ça, je pense que c'est important. Le traité de Lisbonne, c'est une date essentielle. Donc, décembre 2009, ça change la donne au niveau de l'Union européenne. Et ça, on ne l'a pas encore complètement intégré. Et je pense que c'est important. Je rappelle aussi que nous sommes, pour 18 d'entre nous, les pays de l'Union européenne, 18 sur 28, adhérents à l'euro. Nous avons une monnaie unique. Et je pense que c'est quand même très important. Je vais vous expliquer après pourquoi. Par ailleurs, aujourd'hui, on parlait du contexte, tout à l'heure, on parlait du contexte de la mondialisation. Il est évident qu'un un ensemble économique de 500, plus de 500 millions d'habitants, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non à Madame Le Pen, ça pèse plus lourd qu'un pays de 65 millions d'habitants. Et ça représente quelque chose dans le cadre de la mondialisation. Un pays de 65 millions d'habitants, en Chine, en Inde, au Brésil ou aux États-Unis, c'est ça. C'est-à-dire zéro. Alors que un continent, une union telle que l'Union européenne de plus de 500 millions de clients potentiels, je rappelle quand même que l'Union européenne, dans sa configuration actuelle, est la première puissance mondiale en termes de PIB. Donc, on pèse sur l'économie mondiale et dans le cadre de la mondialisation, ce qui ne serait pas le cas si on était isolé. Et on reviendra sur l'euro tout à l'heure. J'en parle d'autant plus librement que, alors pour certains, ça ne dira peut-être pas grand-chose parce que ça commence à avoir de l'âge, mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis membre de l'UMP, je suis membre du bureau politique de l'UMP, je suis secrétaire national de l'UMP, membre de la Commission nationale d'investiture, mais je suis avant tout un gaulliste. Alors, ça vous dit quelque chose, le général de Gaulle ? Pour certains d'entre vous. Bon. Le général de Gaulle était très attaché à la nation et à l'indépendance de notre pays. Moi, je suis de ceux qui pensent que, alors c'est facile à dire, évidemment, pour un mec qui est mort, mais que si le général de Gaulle était vivant aujourd'hui, il serait sans doute très, très européen. Très, très européen. Aujourd'hui, notre souci... D'abord, je pense qu'on peut être patriote et européen. Ce n'est pas incompatible. Moi, je suis très attaché à mon pays, la France, mais je me sens très européen. Et je suis également très attaché à ma région, la Bretagne, bien entendu. Je pense que tout ça, ce n'est pas incompatible. Ça peut se tenir. Et donc, la souveraineté, aujourd'hui, il y a quelques années, on opposait les souverainistes aux fédéralistes. Ça ne veut plus rien dire, ça. Aujourd'hui, c'est la souveraineté de l'Union européenne qui est en jeu. C'est ça, c'est cette souveraineté-là qui est en jeu. Et c'est son unité, sa cohérence qui est nécessaire. On voit bien avec le problème de l'Ukraine qui se passe aujourd'hui, on voit bien que l'Union européenne a sa place, a son rôle à jouer dans ce problème. Parce que s'il n'y avait que 28 pays séparés face à la puissante Russie, le problème il serait vite réglé. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a Vladimir Poutine et la Russie d'un côté, l'Union européenne de l'autre. Alors, la voie de l'Union européenne, elle est compliquée aujourd'hui à identifier, c'est vrai, mais elle existe et elle permet de peser dans ce type de conflit. Alors, je parlais de l'euro tout à l'heure. Je pense que l'euro est un ciment pour l'Union européenne. Est un ciment. Alors, seuls aujourd'hui, 18 pays font partie de la zone euro. Pourquoi ? Parce qu'il y en a 10 qui ne font donc pas partie de cette zone pour des raisons différentes. Parmi ces 10, il y en a 7 qui ne font pas partie de la zone euro parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères qui permettent de rentrer dans le cadre de la monnaie unique. En clair, ils ont des problèmes de déficit public, on considère qu'ils ne sont pas à même de rentrer dans la zone euro. Alors moi, je dis, j'ai un discours très clair là-dessus, qui est partagé ou pas, d'ailleurs, quelle que soit la famille politique, ben je dis qu'il faut aider ces pays-là au maximum à rentrer dans les critères de manière à ce qu'ils puissent rentrer dans l'euro. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis, il y en a 3 qui ont une situation un peu particulière. Il y a le Danemark, qui a une dérogation formelle pour ne pas être dans l'euro. Et puis, il y a la Suède, qui a une dérogation un peu plus informelle pour ne pas être dans l'euro. Ben ces deux pays, moi, j'ai envie de leur dire, une dérogation, ça n'a pas vocation à être éternelle. Donc, comme vous remplissez largement les critères pour entrer dans l'Union européenne, dans la monnaie unique, pardon, je dis à ces deux pays-là, rentrez dans l'euro. Et puis reste le cas, évidemment, du Royaume-Uni, qui est un cas à part, puisque le Royaume-Uni, évidemment, rentre dans les critères de l'euro sans problème, mais c'est un choix politique qui a été fait en son temps par Margaret Thatcher, qui s'accompagnait d'ailleurs d'autres choix et d'autres choses qui sont aujourd'hui un peu, à mon avis, tout à fait contestables. C'est notamment le fait que le Royaume-Uni participe moins au budget de l'Union européenne que ce qu'il devrait, par rapport à sa population et à son PIB. C'est basé sur son PIB, hein. Parce que Margaret Thatcher avait négocié ça à l'époque. Donc le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro parce qu'il ne veut pas y être. Le Royaume-Uni cotise moins au budget de l'Union européenne qu'il devrait. Mais, par contre, le Royaume-Uni a un droit de veto sur le budget européen et le Royaume-Uni bénéficie très largement du marché unique. Et je rappelle quand même que 60% des exportations du Royaume-Uni vont vers les pays de l'Union européenne. Donc quand on entend aujourd'hui M. Cameron dire « on va faire un sondage », parce que lui, il n'a qu'une trouille, c'est de sortir de l'Union européenne. Par contre, la population anglaise, c'est sûr que si on fait demain, ou britannique, si on fait demain un référendum, je pense que les sujets de sa gracieuse majesté vont souhaiter sortir de l'Europe. Ce qui serait dramatique pour l'économie britannique, sans doute gênante pour l'économie européenne, mais dramatique pour l'économie britannique et pour les citoyens britanniques. Tout ça au nom d'une indépendance, d'un nationalisme qui apparaît un peu partout. Et ça, c'est grave. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, M. Cameron, il repousse systématiquement le référendum. Parce qu'il sait bien que ça poserait des gros problèmes. Je peux vous dire que les gens qui travaillent à la City, aujourd'hui, qui est quand même la plus grande place financière européenne, ils sont terrorisés à l'idée de quitter l'Union européenne, bien entendu. Ça isolerait encore un peu plus le Royaume-Uni. Alors moi, je dis, à partir de tout ça, tous ces éléments-là, alors évidemment, c'est un discours un peu iconoclaste, hein, je ne le cache pas, mais je le dis. Et dans la campagne, j'en parlerai sûrement, puisque j'ai eu la chance d'être désigné tête de liste pour mon parti, pour l'euro-région du Grand Ouest. Ben, je dis tout simplement, pas d'euro, pas d'Europe. Et c'est simpliste, mais il va bien falloir qu'on y arrive, parce qu'on est en train d'essayer de mettre en place une gouvernance économique et financière à l'échelle de l'Union européenne. Elle est nécessaire, on voit bien tout ce qui s'est passé, la crise qu'on vient de traverser, parce que des pays ne respectaient pas un certain nombre de règles, notamment en matière de dette publique et de déficit budgétaire. Donc l'idée, c'est de mettre en place une gouvernance économique et financière au niveau de l'Europe. Mais aujourd'hui, on ne peut la mettre en place qu'au niveau d'une monnaie unique, d'une zone monétaire unique. Donc on ne peut la mettre, cette gouvernance économique et financière, en place que sur 18 pays. Et on ne peut pas avoir une Europe à deux vitesses. Certains le prétendent, moi je pense que ce n'est pas possible. Il faut avoir une Europe à une seule vitesse. C'est la vitesse, justement, d'une gouvernance économique et financière qui permette de réguler les budgets. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait une... Alors c'est un abandon partiel de souveraineté, sans doute, mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait une ingérence de l'Union européenne dans les économies nationales. C'est simplement un contrôle et dire attention, il faut arrêter ça, il faut mieux faire ça, il faut faire une supervision en quelque sorte des économies européennes. Et c'est la première marche, vous en parliez tout à l'heure, monsieur le directeur, vers l'Europe sociale, vers l'Europe fiscale. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des grosses différences au sein même de l'Europe en matière de charges sociales, par exemple, entre l'Allemagne et la France. Prenons le cas entre l'Allemagne et la France. Jusqu'à preuve du contraire, alors ça va changer dans les semaines qui viennent, il n'y a pas de salaire minimum en Allemagne. L'Allemagne, en effet, a beaucoup moins de chômeurs que nous. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, a des salariés pauvres. Moi, j'en vis pas les salariés pauvres de l'Allemagne. On prend souvent l'Allemagne comme un exemple. C'est un exemple de réussite économique, sans aucun doute. Mais à côté de ça, il y a des travailleurs pauvres en Allemagne. Parce qu'il n'y a pas de salaire minimum. Par ailleurs, ça génère un dumping social très important, puisqu'évidemment, l'Allemagne n'ayant pas de salaire minimum, peut produire un certain nombre de produits moins chers que nous, les Français, par exemple. Ici, en Bretagne, nous sommes très, très dépendants de notre agroalimentaire. La transformation du cochon en Allemagne revient à beaucoup moins cher qu'en France. Donc c'est un dumping social, c'est une concurrence déloyale qu'il faut gommer. Bon, la chancelière Angela Merkel, qui est alliée désormais avec le SPD, donc avec les socialistes allemands, a pris l'engagement de mettre en place un salaire minimum en Allemagne. Ça va déjà limiter ce dumping social. Mais si on parle de l'Europe sociale, il faut quand même savoir que le salaire minimum, entre guillemets, en Bulgarie, c'est 150 euros mensuels, et le salaire minimum au Luxembourg, c'est 1700. Donc vous voyez un peu le delta qui existe entre la Bulgarie et le Luxembourg ou la Suède. Donc évidemment, l'idée, c'est de rapprocher petit à petit, de diminuer ces écarts. Ça me paraît nécessaire si on veut aller vers une Europe sociale. Donc tout ça, c'est important. Et il faut absolument une monnaie unique au niveau des 28. Alors c'est un peu un vœu pieux aujourd'hui, j'en conviens, parce que je vous ai expliqué pourquoi ces pays n'étaient pas dans l'euro. Et il faut absolument qu'ils y rentrent, mais ça ne se fera pas en claquant des doigts, c'est sûr. Le problème de l'Europe, d'ailleurs, en général, c'est l'inertie et le temps qu'il faut pour mettre en œuvre et en place un certain nombre de choses. Alors, c'est pour ça que ça a pour le citoyen moyen, le citoyen lambda, qui n'est pas informé des choses, qui n'est pas dedans, comme nous les députés, ou comme, c'est de dire l'Europe n'avance pas. L'Europe n'avance pas. Mais l'Europe, elle avance. L'Europe, elle avance. Je prends la politique agricole commune qui concerne notre région notamment. Sachez que s'il n'y avait pas la PAC aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agriculture en Bretagne. Il n'y aurait plus rien. Donc grâce à l'Europe, grâce à cette mutualisation, cette redistribution, l'agriculture française et bretonne peut continuer à vivre. Et je pense que ça, c'est important. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas l'Europe, il n'y aurait plus du tout d'agriculture en France. Je peux vous le dire, c'est clair. C'est vrai dans d'autres domaines. Moi, je suis vice-président de la commission de la pêche. La pêche est une compétence uniquement communautaire. Sans Europe, il n'y aurait plus de pêche aujourd'hui. Il n'y aurait plus de bateaux de pêche dans nos ports. Donc l'Europe a apporté beaucoup et continue à apporter beaucoup. Je pense que c'est important de le dire. Et alors, encore une fois, je pense qu'il est nécessaire, à l'avenir, d'adosser donc l'Europe à cette monnaie unique, qui, quand même, qu'on le veuille ou non, malgré ce que prétendent certains, a été un bouclier, nous a aidés et nous aide encore à traverser la crise économique et financière que nous traversons aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu l'euro, je me demande où on serait aujourd'hui. On en serait à notre quatrième ou cinquième dévaluation. Et les économies de vos parents ou de vos grands-parents, s'ils en ont, j'espère pour eux, ils vaudraient 30, 40, 50 ou 60% moins que ce qu'ils valent réellement aujourd'hui. Sachez que demain, comme certains le prétendent, si on décide de sortir de l'euro et de revenir au franc, c'est dévaluation immédiate, surdévaluation, et toute l'épargne des Français va diminuer de 40, 50, 60%. Donc tout ça, c'est des fantasmes, hein. Ça ira pas mieux si demain on vient au franc, ça ira moins bien. Donc c'est simple, c'est un discours qui est très simple, qui est même simpliste, et qui peut séduire certains, mais ce serait dramatique. Le repli sur les frontières, c'est pareil. L'Europe permet, quand vous voulez vous balader en Europe, vous avez une carte d'identité, ça suffit. Vous vous baladez partout en Europe, vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est quand même un acquis extraordinaire. Revenir demain à des frontières fermées avec des... Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Nous, on a connu ça, avec des postes de douane où il faut s'arrêter avec les voitures, ci et ça. Mais c'est un recul considérable. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est protéger l'Europe. Et protéger l'Europe, c'est protéger ses frontières. Mais les frontières de l'Europe, pas les frontières de nos pays respectifs. Les protéger par rapport à l'immigration, par rapport à un certain nombre de choses. C'est vrai, c'est clair. Donc il faut renforcer un peu ces frontières. Ça me paraît évident. Et puis sur le plan économique, il y a le principe de la réciprocité qu'on n'a pas appliqué pendant des années. Ça, c'est vrai. J'en conviens. Les dirigeants européens, et notamment les gens de la Commission européenne, étaient pour la plupart, pendant 15 ou 20 ans, des ultralibéraux. Des ultralibéraux qui ont ouvert les portes et les fenêtres de l'Union européenne à tout va. Ça veut dire qu'ils laissaient entrer, et c'est encore vrai aujourd'hui, sur le marché européen, tous les produits possibles et imaginables, sans appliquer à ces produits les mêmes contraintes qu'on applique à nos propres produits. Donc moi je dis aujourd'hui, j'emploie pas le mot protectionnisme parce que c'est un gros mot. On emploie le mot réciprocité. Je dis simplement qu'on impose aux autres pays les mêmes contraintes quand ils viennent sur notre marché unique qu'on impose à nos propres producteurs. C'est le principe de la réciprocité. Et là, tout le monde est d'accord, à gauche comme à droite. C'est nécessaire pour qu'il y ait une équité sur les marchés. Parce que vous savez, les Chinois, ils ne s'embarrassent pas. Hein. Quand il y a un produit qui les gêne sur leur marché national, sur leur marché chinois, ils mettent des droits de douane gros comme ça, ils mettent 15% de droits de douane ou 20% ou 30%, comme les Américains. Et le produit ne rentre pas. Et c'est tout. Parce que ça les emmerde sur le plan local. Et bien nous, l'Europe, il faut absolument qu'on ait donc cette culture un peu moins ultralibérale qui nous permette de réguler les marchés. D'ailleurs, je dis souvent, moi en tant que membre de l'UMP et en tant que membre du PPE, au Parti Populaire Européen, à Bruxelles et à Strasbourg, je suis libéral parce que je considère que le libéralisme, c'est la liberté, mais je ne suis surtout pas ultralibéral parce que l'ultralibéralisme, c'est la jungle, et la jungle, ça conduit au bordel, pardonnez-moi l'expression. Donc voilà, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, l'Union européenne, notamment à travers le Parlement, a beaucoup évolué dans ce sens-là. Et je pense que c'est essentiel, il faut qu'elle continue à évoluer comme ça. Alors je parle du Parlement, et tout à l'heure je vous parlais du traité de Lisbonne. Sachez que jusqu'à 2009, jusqu'au traité de Lisbonne, donc vous savez, il y a trois piliers de l'Union européenne. Il y a la Commission européenne, le Parlement européen, et le Conseil des chefs d'État et des ministres. Alors, je vais prendre un exemple concret, tout simple. Avant 2009, la Commission européenne, qui a toujours l'initiative législative, et qui l'a conservée, proposait un texte législatif au Parlement. Le Parlement, il validait. Il était là pour... C'était une chambre d'enregistrement. Il validait. Je schématise, je simplifie. Et après, c'était mis en œuvre par le Conseil des chefs d'État et le Conseil des ministres. Depuis 2009, c'est une révolution. La Commission européenne, qui a l'initiative législative, elle écrit un texte. C'est un texte de loi, en quelque sorte. Elle le confie au Parlement. Le Parlement choisit un rapporteur. Je vais prendre le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche au hasard, puisque j'en suis le rapporteur. Elle confie le texte au Parlement, qu'il confie à un parlementaire. Ce parlementaire travaille avec des collègues de tous les autres groupes sur ce texte. Le détricote, le retricote, je vous rappelle quand même que le Parlement européen, c'est la représentation populaire. C'est la démocratie européenne. On est élu au suffrage universel. Donc ce texte, on le reprend, on le remouline, on le refait à notre sauce, il passe en commission ad hoc, en l'occurrence en ce qui concerne le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, en commission de la pêche, avec des amendements, avec des... Voilà. Après, il passe en plénière, il est voté en plénière, et après seulement, arrive la période des trilogues, qui en fait s'appellent trilogues, mais sont désormais des dialogues, depuis le traité de Lisbonne. Puisque maintenant, la commission n'est plus toute puissante. Déjà, son texte a été complètement refait, et ensuite, la négociation pour finaliser ce texte, c'est entre le rapporteur, entre le Parlement et la présidence du Conseil. Et la Commission est là, non plus pour intervenir dans la négociation, mais pour apporter des éclairages dans le cadre de la négociation. Donc, moi je me suis retrouvé en face de la Commission, de la présidence du Conseil, qui était à l'époque une présidence lituanienne, donc en face de l'ambassadeur de Lituanie et de ses collaborateurs, et avec la Commission pour nous aider à avancer sur les différents... Alors, c'est très long, les dialogues, enfin, les trilogues. Ça dure des heures et des heures, ça finit à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Hein. C'est... Sur chaque article, on discute. Hein. Bon. Et pour vous donner un exemple, j'ai été l'auteur d'une première, puisque le 21 ou le 22 décembre, je ne sais plus. On était en fin de trilogue. La Commission a voulu intervenir et a essayé d'influencer le Conseil pour aller à l'encontre du mandat que j'avais du Parlement. J'ai trouvé cette manœuvre insupportable. J'ai donc demandé à mes collègues des autres groupes, les Verts, les Socialistes, les Conservateurs, qui sont avec moi. Il n'y a que moi qui parle dans le trilogue, enfin, il n'y a que le rapporteur. Mais mes collègues sont avec moi. Je leur ai dit, ben, écoutez, j'ai appelé la commissaire d'abord, la commissaire Damanaki. Je lui ai dit, écoute Maria, ou tu retires ton diktat, ou on s'en va. Ce qui n'était jamais arrivé. Bon. Ça a duré une heure et demie, deux heures. Au bout de deux heures, elle a rappelé son directeur de la DG Marais pour lui dire, moi, je retire rien du tout, on reste comme ça. J'ai dit à mes collègues, on s'en va. Donc on a quitté la table des négociations, on a rompu les négociations avec le Conseil. Ce qui était une première, ils sont restés un peu surpris. J'ai immédiatement appelé le président du Parlement européen, Martin Schulz, dans les minutes qui ont suivi, pour l'informer de ce que j'avais fait. Je vous signale quand même que moi, je suis au PPE, issu de l'UMP, et que Martin Schulz est du SPD, donc socialiste. Martin Schulz m'a dit, Alain, tu as parfaitement bien fait, je te soutiens, le Parlement te soutient, il faut absolument affirmer les prérogatives du Parlement européen. Voilà. Donc j'ai quitté la table des négociations, ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'accord. Au 31 décembre, il n'y avait pas d'accord. Ça veut dire qu'au 1er janvier, c'est assez intéressant d'ailleurs, la DG Marais, qui est la direction générale de tout ce qui est donc pêche et mer au Parlement européen, enfin l'Union européenne, n'avait plus d'existence réelle. Elle n'avait plus de budget, parce qu'on avait tout quitté. Donc je peux vous dire que le 4 ou le 5 janvier, Maria Damanaki m'a appelé, la commissaire, sur mon portable. Elle me dit, Alain, voilà, j'ai réfléchi, je pense que tu as raison. Donc est-ce que tu veux bien revenir à la table des négociations? Je lui dis, si tu retires ce que tu proposais, moi je reviens. Elle a retiré. On a recommencé les négociations avec la présidence grecque, puisque c'était la Grèce qui présidait à ce moment-là. Et en deux jours, ça a été fini, ça a été plié. Voilà. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, le Parlement affirme son autorité sur les textes de loi, qui, je rappelle quand même, parce que le citoyen ne le sait pas toujours, s'agissant par exemple de la politique commune de la pêche, les textes que nous avons votés là sont les textes qui vont régir toute la politique de la pêche jusqu'en 2020. Tout ce qui se passe dans la pêche européenne en 2020, c'est là-dedans, et dans le règlement de base. Donc c'est quand même important. Ça va de la taille des mailles des chaluts, en passant par les... Alors il n'y a qu'une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est les quotas. Les quotas, c'est la Commission européenne qui négocie directement avec le Conseil chaque année, avec l'éclairage des scientifiques. Bon. Mais tout le reste, les subventions, qu'est-ce qu'on peut subventionner, qu'est-ce qu'on ne peut pas subventionner... tout ça, c'est dans ce qu'on a voté au Parlement européen. Et ça s'applique aux 28 États de l'Union européenne. Et c'est vrai aussi pour la politique agricole commune. C'est pareil. Donc, vous voyez, ce sont des politiques extrêmement importantes. La politique de cohésion, c'est pareil. Les décisions que nous avons prises sur le FEDER, d'assortir désormais les aides au FEDER à des critères environnementaux, par exemple, extrêmement sévères. Eh bien, nous l'avons décidé l'année dernière. Et c'est vrai maintenant pour toute la période 2014-2020. Donc vous voyez que le Parlement a pris plus d'importance qu'il n'en avait. Donc on va vers une Europe politique, beaucoup plus politique et moins technocratique. Et je pense qu'il faut qu'on franchisse encore des étapes. Si on écoutait Daniel Cohn-Bendit, qui est un collègue brillant, qui a été, comme nous tous, étudiant, vous savez, et à l'époque il était un peu turbulent. Depuis, c'est devenu un homme politique brillant, d'ailleurs. Lui, il dit, il faudrait qu'on s'enferme et qu'on fasse une constituante. Bon, ça, c'est... Pourquoi pas? Mais bon, on n'en est pas là. D'ailleurs, il arrête à la fin de son mandat. Il ne se représente pas en 2014. Il va sans doute manquer au Parlement, d'ailleurs, parce que c'est un tribun de grande qualité. Un peu excessif, parfois, mais passionnant à écouter. Donc, sachez que le Parlement européen, aujourd'hui, est quelque chose d'extrêmement important. Alors, encore une fois, en France notamment, il est assez loin du citoyen et on considère que le Parlement européen, ce n'est pas très important. C'est beaucoup moins vrai dans d'autres pays d'Europe. C'est beaucoup moins vrai, par exemple, dans les pays nordiques. en Allemagne, en Suède, Danemark, j'en parlais tout à l'heure, aux Pays-Bas, dans tous ces pays-là, on a compris l'importance du Parlement européen. C'est la raison pour laquelle, j'en profite pour vous glisser un petit message, le 25 mai, si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire le 25 mai, allez voter. Allez voter. Pour qui vous voulez, encore que. Enfin, si, pour qui vous voulez. Mais surtout, allez voter. Tiens, dis donc, pendant que j'y pense, là, comme ça, là, parmi vous, là, combien savaient que c'était le 25 mai les élections européennes? Non, mais qu'il y en a au moins un qui élève la main, quand même. Toi, tu savais? Non, mais t'as pas honte, lève la main, n'aie pas peur. Donc, il y en a un qui savait que c'était le 25 mai. Et donc, maintenant que je vous l'ai dit, combien iront voter le 25 mai aux élections européennes? Ah, mais levez carrément la main, on se croira au Parlement européen quand on vote à main levée, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas. Bon, d'accord, ça va mieux, ça me fait plaisir. C'est sympa. J'espère que ce n'est pas pour me faire plaisir uniquement. Hein? Bon. Non, c'est important que vous alliez voter, et c'est important que vous disiez à vos amis, à vos parents, à tous les gens qui vous entourent, d'aller voter pour les élections européennes. C'est extrêmement important. C'est vrai que les élections municipales, c'est important. C'est vrai que les élections présidentielles, législatives, c'est important. Mais les élections européennes, c'est aussi très important pour votre avenir. C'est extrêmement important. Donc, il faut absolument que vous alliez voter. Alors, je pense que dans l'Europe de demain, il faut qu'on réglemente un peu moins, mais qu'on légifère mieux. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à réglementer un peu sur tout. On empile les règlements. Et la Commission européenne n'y est pas étrangère, parce que c'est son fonds de commerce. Alors évidemment, elle fait des règlements qu'elle nous propose maintenant au Parlement et que nous entérinons. Donc je pense qu'il faut qu'on légifère davantage. Le problème, c'est que l'Europe a pris l'habitude, avec ses ultralibéraux dont je parlais tout à l'heure, de s'occuper un peu de tout, y compris de choses d'ailleurs qui seraient mieux gérées par les États. Je vais vous donner un petit exemple. C'est mon assistant qui m'a mis ça. C'est un exemple assez amusant, moi je n'avais pas fait gaffe. La Commission européenne envisage, là, actuellement, de réglementer la commission des chasses d'eau, la consommation des chasses d'eau. Moi, je veux bien. Oui, mais au niveau européen. Donc, je pense qu'on a quand même mieux à faire que ça, quoi. Même si c'est vrai qu'il faut faire attention à la consommation de l'eau. J'en conviens, je m'en occupe beaucoup d'eau. Mais bon, peu importe. Alors que, on voit bien qu'en politique étrangère, en défense, politique de défense, on est un peu à la traîne. S'il n'y avait pas la France, par exemple, qui intervient de façon tout à fait pertinente, à mon sens, sur le continent africain, ou les Anglais, l'Europe de la défense n'existe pas. Bon. La politique étrangère de l'Union européenne, alors je parlais de l'Ukraine tout à l'heure, heureusement les chefs d'État s'y sont mis, et les ministres des Affaires étrangères. Mais qui parmi vous connaît le nom de la, je vais vous dire, c'est une femme quand même, la haute commissaire aux affaires étrangères? Ah, il y en a au moins deux. Elle s'appelle Catherine Ashton. Voilà, c'est très bien. Mais vous n'êtes pas très nombreux à le savoir. Elle devrait être connue de tout le monde. Et là, on a un problème, on a un manque, c'est certain. Un manque d'identification. C'est qui l'Europe? Kissinger disait, c'est quoi le numéro de téléphone de l'Europe? J'en ai pas. Bon. Et voilà. Alors, et puis alors, la Commission continue à imaginer qu'elle est toute puissante. Donc elle prend des décisions qu'heureusement le Parlement peut contester. Je pense aux OGM, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu récemment dans la presse, la Commission a décidé d'autoriser la culture de maïs OGM, alors que 19 des 28 États de l'Union sont opposés aux cultures d'OGM. Petit aparté, je suis pour ma part opposé aux OGM. D'accord? Je vous le dis. Donc je fais partie de ces 19 pays et des gens qui sont opposés. La Commission européenne, elle a dit non, on pourrait, tout compte fait, accepter le maïs de chez Monsanto, après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc évidemment, on va rectifier les choses, mais elle a encore l'impression qu'elle peut prendre des décisions sans en référer aux représentants des peuples, que nous sommes, nous, puisque nous sommes élus au suffrage universel. J'ai oublié de vous dire, on est 72 Français au Parlement européen, sur 758 députés maintenant. On n'a pas augmenté le nombre de députés avec l'entrée de la Croatie. On a réparti différemment et on n'augmentera plus. n'y en aura pas plus de députés. D'accord ? Ça aussi, c'est important. Bon, c'est un peu décousu ce que je dis là, mais c'est important parce que 28 pays, c'est presque autant de langues, des cultures très différentes. Et parmi ces 28 pays, c'est des partis politiques différents. Donc, je ne sais pas si vous voyez le melting pot que ça représente. Et ben ça, c'est une richesse extraordinaire. Alors évidemment, c'est un peu compliqué parfois. Mais on voit bien que on arrive à travailler au Parlement européen de façon différente par rapport au Parlement français. Ou français, ou les autres, mais notamment français. Où on est sur une bipolarisation de la vie politique. Compte tenu de nos institutions, en France, il y a une majorité et une minorité. La majorité décide, la minorité gueule. Qu'elle soit de gauche ou de droite. Au Parlement européen, c'est pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, vous êtes obligé de travailler sur le principe du compromis. Quels que soient les textes, quelles que soient les décisions que vous voulez prendre. Donc, vous travaillez avec des groupes. Moi, je travaille avec les socialistes, avec les verts. On est obligé de faire des alliances. Donc, évidemment, ça génère une autre approche de la politique que la politique française, franco-française. On n'a pas la même façon de fonctionner. Et honnêtement, c'est très enrichissant de pouvoir travailler de cette manière-là. On travaille sur le consensus et sur le compromis. Pas la compromission, c'est pas pareil. Hein. Mais ça me paraît extrêmement important. Alors, moi je pense que, je vous le disais tout à l'heure, il est nécessaire de remettre les responsables politiques au cœur des décisions. Et donc, l'Europe de demain, c'est cette Europe-là. C'est une Europe qui soit une Europe plus une Europe plus politique, plus une Europe des citoyens, que ce que ça a été pendant de nombreuses années, où c'était plutôt l'Europe des technocrates de Bruxelles. Ça, c'est à mon avis, important. Alors, par contre, tout à l'heure, on parlait de la libre circulation dans l'Union européenne. Il est aussi nécessaire, là, on a l'Ukraine, on a le problème de l'Ukraine, là, actuellement. Il est aussi nécessaire on voit bien que le dernier élargissement a été compliqué, d'ingurgiter la Grèce, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, ça n'a pas été simple. On a été un peu vite. On a fait un élargissement à la hache. Aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, et je ne suis pas le seul à penser ça, de faire une pause. L'élargissement, ce n'est pas pour demain. Je crois qu'il faut consolider l'Europe telle qu'elle est. Je vous parlais tout à l'heure de passer la zone euro de 18 à 28, ou 27, si les Anglais ne veulent pas. C'est leur problème. En tous les cas, moi, je ne suis pas favorable à un élargissement. Alors, il y a beaucoup de candidats à l'Union européenne. Parce que c'est marrant, parce qu'au sein de l'Union européenne, au sein de la France, par exemple, tout le monde critique l'Union européenne. Mais tous les autres pays veulent rentrer dans l'Union européenne. C'est bizarre, non ? Quelque chose qui m'échappe, là. L'Islande, la Turquie, le Maroc, le Liban. Cela étant, qu'on soit quand même réaliste, on a un prof d'histoire ici, il connaît aussi la géographie, il y a des frontières géographiques naturelles. On ne peut pas étendre l'Europe indéfiniment. Alors là, je prends le cas de la Turquie. Moi, je suis opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je pense que la Turquie est un trait d'union nécessaire entre l'Occident et l'Orient, c'est incontestable, s'il n'y a pas une dérive trop islamique. Hein, faut faire attention. Mais, en tous les cas, en aucun cas, elle ne doit rentrer dans l'Union européenne. Bon, l'Islande, aujourd'hui, petit pays, 330 000 habitants, on en parlait tout à l'heure, veut rentrer dans l'Union européenne, mais veut tout simplement que ses propres règles soient appliquées à l'Union européenne. Alors, il ne faut quand même pas exagérer. Alors, moi, je veux bien que l'Islande rentre dans l'Union européenne, mais qu'elle s'adapte à nos règles à nous, et non pas l'inverse. Ça me paraît, 330 000 habitants d'un côté, 500 millions de l'autre, il faut être raisonnable. Donc, je pense que ce n'est pas le moment. Alors, je parlais de la Serbie tout à l'heure. Les Balkans, c'est un cas un peu à part. Et alors, il y a l'Ukraine. Là, c'est l'actualité. Mais ceux qui disent il faut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ils disent n'importe quoi. Un processus d'entrée dans l'Union européenne, c'est entre 10 et 15 ans. Entre le moment où on commence le processus et le moment où on le termine. Donc, on ne peut pas faire rentrer un pays comme ça dans l'Union européenne. Il faut qu'on ait un certain nombre de garanties. Prenons ce pays. Il faut qu'on ait des garanties en matière de démocratie. Il faut qu'on ait des garanties en matière économique. Et on ne les a pas aujourd'hui. On sait bien que ce sont des pays où les régimes sont corrompus, il faut le dire. Ce sont des régimes qui ne sont pas vraiment démocratiques. Donc il faut d'abord que ces pays remplissent ce qu'il y a dans la charte des droits fondamentaux. D'ailleurs, on a quelques problèmes avec la Hongrie actuellement, il faut le dire. La Hongrie de Viktor Orban, qui est borderline, s'agissant des droits de l'homme. Donc on est prêt, l'Union européenne et le Parlement notamment, a pris une résolution en disant, si Viktor Orban ne rentre pas dans les clous de la charte des droits fondamentaux, il n'y aura plus d'argent européen qui ira en Hongrie. Et ça, en général, ça marche. Quand vous parlez d'argent, dire les mecs, ils font attention. Hein. Donc, j'ose espérer et j'en doute pas que Viktor Orban va revenir dans le droit chemin. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, le Parlement s'opposera à ce qu'il y ait des subsides de l'Union européenne qui aillent vers la Hongrie, vers cette Hongrie-là, en tous les cas. Donc, on ne peut pas être dans un système d'élargissement perpétuel. Donc, aujourd'hui, il faut consolider l'Europe telle qu'elle existe. C'est la première des choses. Géographiquement, ça tient la route. Bon, il faut qu'on y arrive comme ça. Alors, c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, certains États membres, le Royaume-Uni par exemple, aimeraient une Europe à la carte, à 2, à 3, à 4 vitesses. Moi, ça ne me paraît pas raisonnable. Je suis de ceux qui... Je ne suis pas fédéraliste, je ne suis pas souverainiste, parce que ça n'existe plus, c'est des mots qu'on n'utilise plus, mais je pense qu'il faut... Il faut une Europe à une seule vitesse. Une seule et une bonne vitesse. Voilà. Et c'est comme ça que l'Union européenne et que notre continent s'en sortira. Et ce n'est pas en ayant une Europe à 2 ou 3 vitesses. Donc ça me paraît extrêmement important. Donc, la fin des dérogations, je le disais tout à l'heure, et l'entrée des autres pays dans la zone euro. Ça me paraît indispensable. Et puis je vous rappelle quand même que l'Union européenne, c'est un grand espace de liberté. Je vous parlais de la Charte des droits fondamentaux tout de suite. C'est extrêmement important. Nous contrôlons les pays pour vérifier que la démocratie est bien respectée. Je vous parlais de la Hongrie tout à l'heure. On a eu quelques soucis en Bulgarie. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Et cet espace de liberté, c'est votre espace de liberté. L'espace de liberté de tous les jeunes Européens. Il y a des processus qui vous concernent directement. Je pense à Erasmus, qui permet des échanges d'étudiants entre les différents pays européens. Et ça, sans l'Union européenne, il n'y en aurait pas. Donc, vous voyez, il y a des tas de dispositifs qui permettent de mieux vivre en Europe, dans nos pays respectifs, parce qu'on est à l'intérieur d'une communauté qui s'appelle l'Union européenne. Et quand on nous raconte le contraire, on nous raconte des conneries, tout simplement. Et aujourd'hui, les populistes en France, les extrémistes qui vous racontent le contraire, eh bien, ils vous mentent, tout simplement. Ils vous mentent. Ça n'ira pas mieux demain si on fait marche arrière. Ça ira moins bien. Au contraire, il faut aller de l'avant vers une Europe plus forte. Ça me paraît nécessaire. Donc, voilà à peu près, moi, ce que je pouvais vous dire. Sur l'Union européenne, j'ai encore plein de choses à vous dire, si vous voulez. Mais de façon un peu... Moi, je vous propose, si vous en êtes d'accord, qu'on fasse un échange, que vous me posiez les questions que vous souhaitez me poser. Sachez aussi que le mandat de député européen est un mandat magnifique, passionnant. La preuve, c'est que j'ai tout fait pour recommencer et que je vais recommencer, puisque, je vous le disais tout à l'heure, j'ai été désigné tête de liste pour la région ouest. La zone ouest, c'est la Bretagne, les Pays de Loire et Poitou-Charentes. Hein. Donc, comme étant tête de liste de l'UMP, évidemment, je serai réélu député européen, donc je continue mon action. Je pense que l'action, il faut la voir sur le moyen et le long terme. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me posiez les questions que vous souhaitez me poser. Il n'y a pas de questions taboues. Hein. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre. Du mieux que je peux. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tous les cas, j'essaierai. Voilà. Je suis à votre entière disposition. Alors allez-y. Alors la première est toujours difficile à poser, il faut poser la deuxième tout de suite. Alors je voulais vous dire aussi, rapidement, avant qu'on passe aux questions, mais c'est vrai, c'est que vous avez décidé de vous consacrer, pour l'essentiel d'entre vous, à la fonction publique. Moi, je suis très attaché à la fonction publique. Je le dis parce que on caricature souvent. On dit la gauche est pour la fonction publique, la droite est contre la fonction publique. C'est trop simple, beaucoup trop simple. Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais un élu gaulliste. C'est dans le gaullisme, ça. La fonction publique est très importante. On a la chance en France d'avoir un service public de très grande qualité. Le service rendu aux citoyens est de très bonne qualité et le citoyen en a besoin. Donc, on a besoin d'une fonction publique performante. Alors, quand je dis performante, c'est vrai que là, il y a sans doute des progrès à faire. Il y a des services de fonction publique qui sont débordés complètement. Il y en a d'autres, par contre, qu'il faut rationaliser, c'est certain. Mais la fonction publique performante, moi, j'y crois beaucoup. C'est important. Cela étant, on vit une période où l'argent public est rare. Là, je pars dans autre chose, hein. Je ne suis plus en Europe. Là. C'est pas grave. On va y revenir à l'Europe, si vous voulez, par rapport à la fonction publique. La France possède les meilleurs services publics en Europe. On a la chance d'avoir des services, alors, au niveau des communes, au niveau des intercommunalités, au niveau des départements, au niveau des régions. Alors après, il faudrait peut-être diminuer les strates, j'en conviens. Mais on a la chance d'avoir un service public de qualité. Donc, il faut absolument préserver ce service public. Mais, encore une fois, le rationaliser. Et vous serez bientôt, ce sera votre boulot, justement, de rendre ce service public encore plus rationnel, encore plus efficace, encore plus compétitif. Mais tout ça au service de la population. Ça aussi, les Français l'oublient souvent, qu'ils ont la chance d'avoir un service public de qualité. Alors le problème du service public, c'est que c'est un peu l'état-providence, et on se dit, ben, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Parce que c'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Et moi, je souhaite qu'en Europe, on aille plutôt vers le modèle français que vers les modèles qui sont en place en Roumanie, en Pologne, en Bulgarie ou ailleurs, ou même dans certains pays du Nord. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au choix que vous avez fait. Voilà. Et donc maintenant, je passe aux questions. Ben, il y en a deux là-bas qui ne sont pas timides. Il y en a un qui a une chemise blanche. Il y en a un qui a une chemise un peu rouge, parce qu'il parle depuis tout à l'heure, depuis le début. Donc, à mon avis, ils seront capables de poser une question, l'un ou l'autre. Ne vous inquiétez pas, j'étais comme vous quand j'étais au Bahut, hein, et quand j'étais en fac. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser une question. Hein. Non, mais je voulais vous chambrer un peu, hein. pas méchant. Hein. Ça peut être d'autres, hein. Ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Attends. Alors, on va mettre les règles. D'abord, je me permets de vous tutoyer. Hein. Tu te présentes et puis tu parles fort. Non. Je t'ai dit, tu parles fort. Ah, pardon, vas-y.
Que pensez-vous de la politique grecque justement?
Ah ben, alors, bah oui, bah, ça, la Grèce, c'est l'exemple typique du pays qui est rentré dans l'Union européenne. C'est une très bonne question. Qui est rentré dans l'Union européenne alors que, en fait, on n'a pas été bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas vérifié correctement si la Grèce était en mesure de rentrer dans l'Union européenne. Et en fait, la Grèce nous a transmis des chiffres complètement erronés, des données complètement erronées, on ne les a pas vérifiées, on a donc accepté la Grèce. Tant mieux maintenant, la Grèce va s'en sortir. Mais normalement, elle n'aurait pas dû rentrer dans l'Union européenne. Elle n'était pas dans les critères. C'est clair. Et donc, on en a payé le prix fort, surtout les Grecs, je dirais. Les pauvres. Mais ils l'auraient payé encore plus cher s'ils n'avaient pas été dans la zone euro. Parce qu'on a été là, justement, pour les aider. Alors, certains vous diront, oui, mais vous avez violé leur intégrité nationale, puisque vous avez envoyé une task force pour surveiller leur économie et leurs finances. Mais heureusement que l'Union européenne était là. Mais au départ, on n'aurait pas dû laisser rentrer la Grèce dans l'Union européenne, dans l'état où elle était. La réponse est simple, hein. On la connaît tous, là, mais malheureusement, c'est un exemple typique. Typique. Mais c'est une très bonne question.
Si je peux me permettre, pour prolonger un petit peu
Oui, bien sûr.
De l'entrée de la Grèce. Vous avez souligné donc les difficultés avec de l'entrée de la Bulgarie, de la Roumanie. Là, la corruption est active. Et, il y a des commissions.
Oui.
Dans le droit, y a-t-il une possibilité pour réellement, donc vous avez évoqué l'exemple hongrois, il y a des possibilités donc, de sanctions financières, gel de subventions,
tout à fait.
Y a-t-il d'autres dispositifs de...
Alors, on a mis en place ce qu'on appelle une commission temporaire pendant 4 ans, enfin 3 ans et demi, qui s'est appelée tout simplement la commission crime, CRIM, la commission crime, qui avait évidemment pour grande mission d'identifier la corruption dans les pays européens. Mais d'autres crimes, bien sûr, les trafics de stupéfiants, mais surtout la corruption, qui est un mal qui ronge, encore une fois, c'est vrai, ces pays-là. Et donc, cette commission avait pour mission de proposer un certain nombre de sanctions sur ces pays-là. Mais on constate que la sanction la plus, qui paye le plus, en quelque sorte, c'est le cas de le dire, c'est la sanction financière. C'est la sanction financière, c'est-à-dire, c'est de dire au pays, si vous ne mettez pas d'ordre dans votre fonctionnement, dans votre système, eh bien, on ne vous donnera plus d'argent. Parce qu'on a constaté, je vous parlais tout à l'heure, je disais que j'étais dans la commission du développement régional, politique de cohésion, FEDER, 450 milliards d'euros pour une période de 6 ans, c'est quand même pas neutre. Il y a des projets qui ont été financés en Roumanie, je stigmatise pas, mais c'est comme ça. En Roumanie, en Bulgarie ou dans les pays nouvellement entrants, dont on n'a même pas trace. C'est-à-dire qu'on a financé des projets qui n'ont jamais vu jour. Et ça, c'est un manque de sérieux de la part de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est plus possible ça. C'est plus possible parce qu'on a mis des règles en place. C'est plus une logique de guichet, c'est fini. C'est une logique de projet. C'est-à-dire que maintenant, il nous faut un projet précis qu'on évalue. Et à ce moment-là, on décide de le financer. Et on vérifie au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et si le projet dévie de son but premier, on ne finance plus. Et s'il ne rentre pas dans les critères dont je parlais tout à l'heure, par exemple les critères environnementaux. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est comment ton prénom? Julie. Vas-y. Non, j'aime bien parce que...
Il n'y a pas de micro.
Ouais, t'as pas de micro, mais c'est pas... Vas-y, ouais. Voilà, alors ça aussi c'est une bonne question, parce que c'est pas le tout de dire on va les aider. Mais comment on va les aider? On va les aider en développant leur économie, leur croissance, pour que justement leur PIB leur permette d'atteindre les critères de l'Europe. Ça veut dire les aider à obtenir des marchés, ça veut dire les aider dans le cadre de la formation. Il y a des tas de domaines dans lesquels on peut aider ces pays-là, pour justement qu'ils se développent suffisamment. Alors, il y a le FEDER, pour ça j'en parlais tout de suite. Fonds européen de développement, qui a permis d'ailleurs à ces pays de rattraper un retard de développement énorme en 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si vous allez en Pologne aujourd'hui, pour quelqu'un qui était en Pologne il y a 10 ans et qui va aujourd'hui, il n'a pas l'impression d'être dans le même pays. Grâce justement, et aujourd'hui la Pologne, pas de problème, la Pologne est un pays qui a fait des progrès considérables. Et il faut qu'on le fasse aussi, et on le fait pour des pays tels que la Bulgarie, je disais tout à l'heure, la Roumanie, la Hongrie, des pays qui sont en retard de développement et qui doivent évidemment rattraper ce retard pour leur permettre de rentrer dans la zone euro. Par des aides financières, par des incitations de l'Union européenne, des règlements qui leur permettent de faire un certain nombre de choses dans un cadre bien précis et qui leur permettront rapidement de rentrer dans la zone euro. Oui, bien sûr, oui. Il y a 5 critères essentiels. Je n'ai pas tous en tête, là, je suis désolé. Mais il y a 5 critères essentiels de convergence qui... Il faut absolument rentrer dans ces 5 critères. Il y a les techniques, d'information et de communication, par exemple. Je parlais de l'environnement. Il y a un certain nombre de critères bien précis dans lesquels il faut rentrer pour pouvoir bénéficier maintenant des financements européens. Donc, on a décidé ces critères. en fonction de la croissance que ça peut générer, mais d'une croissance durable, une croissance raisonnée. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus à une croissance débridée. On essaye de qu'est-ce qu'on veut? C'est des emplois en Europe. Donc, il faut de la croissance. Il faut qu'on... Alors, il y a encore quelques-uns qui disent, ben non, il faut une croissance zéro, voire la décroissance. Hein, certains verts, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils prônent. Mais en tous les cas, c'est une minorité. On sait bien que pour créer de la richesse et créer de l'emploi, ben, il faut de la croissance. C'est clair.
Vous évoquez la logique de projet. Actuellement, les projets venant de l'Europe balkanique sont nombreux.
Ah oui, tout à fait. Oui. On a suscité une ben, de toute façon, quand on voit ces pays-là, ils avaient un tel retard en termes d'infrastructures, ferroviaires, routières, portuaires, que évidemment, rien que ça, ça génère des projets extrêmement intéressants, extrêmement lourds à financer, mais qui leur permettent d'abord de faire travailler leurs propres entreprises et puis de donner de l'emploi à leurs citoyens. Parce que c'est ça, en fait. Tout ça, ça va ensemble. Mais c'est vrai que si on regarde une exploitation agricole au fin fond de la Roumanie, du côté de Cluj, et qu'on regarde une exploitation agricole dans la Beauce, on n'est plus dans la même époque. Hein. On travaille encore avec des bœufs ou avec des chevaux et... Voilà, donc il y a encore des retards de développement importants. Oui. Vas-y, parce que je suis un peu sourdingue, moi. Oui.
Ah.
Bah oui. Oui, tu as raison. Bah oui, bah c'est notre gros problème, si tu veux. C'est notre souci, j'en parlais tout à l'heure. L'Union européenne, elle est vue de façon négative. Tu as raison. Quand ça ne va pas, c'est à cause de l'Europe. Quand ça va à peu près bien, c'est jamais grâce à l'Europe. Exactement ça. Parce qu'il y a un déficit de communication. Il y a un déficit de communication, c'est clair. C'est très clair. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais pas suffisants. Localement, qui est-ce qui connaît son député européen? Vous savez, vous allez le connaître, vous l'avez vu. Mais avant... Alors que je suppose que vous connaissez votre député national, pour la plupart. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a un déficit de communication, c'est énorme. Alors, cela étant, il y a des efforts de fait. Par exemple, quand il y a des gros projets qui sont cofinancés par l'Union européenne, c'est précisé, vous avez déjà vu des grands panneaux, vous savez, avec le drapeau européen, l'Union européenne a donné tant, machin, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est vrai. Je ne peux que constater ce déficit de communication. Vous avez complètement raison. Enfin, tu as complètement raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est avec grand plaisir que je viens communiquer avec vous pour essayer de vous faire partager mon enthousiasme pour l'Union européenne.
Communiquer et éduquer.
Et éduquer, oui, bien sûr.
Je vous le disais tout à l'heure, je pense que bon, si on prend l'histoire de la constitution de la nation France, sachant que le grand moment national, ça a été Verdun.
Oui, c'est le. Oui.
Comme disait Hans Junger, la France a été au bout de l'idée de nation.
Absolument.
Et en fait, Verdun. C'est quelque part la terminaison d'un mécanisme de construction nationale qui commence au lendemain de 1870.
Oui, c'est ça. Oui.
Et la nation France se construit autour de trois dimensions. Bon, le service national, la colonisation, bon, au nom d'un idéal qui va être assez rapidement dévoyé et qui est celui néanmoins bon, d'apporter les lumières de la Révolution française au monde et de libérer une partie du monde de l'esclavage. Bon, on ne rentre pas dans le dossier colonial, mais il y avait là donc tout un projet porteur. Et puis l'éducation, l'instruction, l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on a introduit, notamment au lendemain de 1870, la géographie à l'école. Et on a également, bon, l'école est devenue obligatoire, et on y a introduit aussi l'histoire nationale. Là, une des pannes de l'Europe, c'est cette construction européenne. Et il y a cette panne, notamment dans l'éducation, parce que l'histoire, la géographie de l'Europe ne sont pas vraiment enseignées. On est passé directement d'une histoire nationale à une histoire mondiale et à une géographie également mondialisée sans passer par la case Europe. Donc là, il y a vraisemblablement une articulation, enfin, il y a sûrement un chantier à ouvrir concernant l'identité européenne parce que Erasmus, parce que des politiques peut-être de visibilité, d'affichage ne suffisent pas pour ancrer le sentiment européen. Alors, concernant Erasmus, bon, c'est un dispositif. Concernant les étudiants, il y a apparemment un projet qui étendrait ça à d'autres catégories sociales.
Oui.
Je pensais au monde des artisans.
Absolument, au monde de l'artisanat. Oui. On y travaille. On a failli perdre Erasmus, hein, parce que pour des raisons budgétaires, voilà, les Anglais et quelques autres souhaitaient la disparition d'Erasmus, tout simplement. Et donc le Parlement s'y est opposé. Et donc on a maintenu ce dispositif et on va non seulement le maintenir, mais comme vous le disiez tout de suite, l'étendre par exemple à de l'apprentissage et à de l'artisanat. Et ça me paraît extrêmement, extrêmement important. On a d'ailleurs failli aussi supprimer le PDED, donc le plan d'aide aux plus démunis, qui à l'époque avait été mis en œuvre pour utiliser les excédents de notre agriculture. On n'a plus d'excédents aujourd'hui, bien sûr, mais ce plan permet à des gens qui sont nécessiteux, qui ont besoin d'être aidés, de pouvoir être aidés. Je pense qu'en France, on a des structures qui marchent très bien. Je pense au Secours Populaire, Secours Catholique, au Resto du Cœur. On a failli supprimer tout ça. Hein. Heureusement que le Parlement s'y est opposé. C'était une proposition de la Commission et des pays nordiques. Hein. Et l'Allemagne, ça a été compliqué de les convaincre de maintenir ce dispositif.
Et donc, concernant la solidarité,
elle existe, justement. Parce qu'il faut la provoquer aussi, parfois, la solidarité. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à l'histoire, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'Europe, ça restera une addition d'histoire et une addition de culture. C'est pour ça qu'on parle des États-Unis d'Europe. Mais non, ce n'est pas les États-Unis d'Europe, c'est l'Union européenne. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Pas pareil, les États-Unis d'Amérique ont une histoire commune, une culture commune, même s'il y a quelques différences entre la côte Est, la côte Ouest et un certain nombre d'autres États. Mais l'Union européenne, elle est faite de cultures différentes, des pays qui sont très riches culturellement, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, enfin je veux dire tous les pays d'Europe ont une forte culture, ont une histoire propre. Et il faut absolument maintenir tout ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on peut être à la fois extrêmement européen tout en restant patriote, tout en étant très attaché à son pays. C'est une conversation que j'ai souvent avec, il n'est pas d'accord avec moi évidemment, avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui est anti-européen et lui attaché à la France pure et dure. Voilà. Il est jacobin comme c'est pas permis, lui. Hein. Breton, machin, ça, il ne veut pas en entendre parler, lui. Hein. Bon. Eh bien, quand on discute, évidemment, on évite d'aborder le sujet, parce que sinon, on s'engueule. Alors, c'est la même. Ça aussi, c'est une richesse du Parlement européen. La richesse du Parlement européen, c'est qu'on peut avoir au Parlement européen des contacts et des relations avec des collègues d'autres pays, mais aussi d'autres formations politiques, de façon libre et simple. Et ça, c'est plus compliqué à Paris et à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, moi, je partage quasiment rien de ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Ça ne nous empêche pas de nous estimer, et de nous respecter, et de discuter ensemble, et de passer des bons moments. Bon. Je citais tout à l'heure l'exemple à table à François Culhane, je lui disais, qu'il connaît bien aussi, j'étais au Salon de l'agriculture lundi, normal, j'ai fait ma visite au Salon de l'agriculture, j'étais un peu moins médiatisé que le président de la République, mais bon, voilà. Et donc, c'est normal d'ailleurs, et à un moment, je vois le directeur de cabinet de Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, que je connais bien par ailleurs, Philippe Mauguin, qui me dit, j'étais sur le stand de Bretagne, ah Alain, t'es là, je vais dire à Stéphane, il est par là-bas, il va être content. Et trois minutes après, je vais arriver à un grand escogriffe, cheveux, Cadec, machin. C'est des relations qu'on a difficilement entre adversaires politiques en France. Pourquoi ? Parce que Stéphane a été pendant 2 ans et demi député européen et qu'on était devenus bons copains, qu'on dînait ensemble et que c'est plus facile à Bruxelles qu'à Paris, quoi. Voilà. Mais c'est une richesse. Je ne vais pas dîner avec Marine Le Pen, hein, je vous rassure.
Avec une longue cuillère. Oui, je pense. Bon, on revient aux questions d'identité, à l'identité européenne. Oh, excusez-moi, après je vous donne la parole.
Ah non.
J'entendais l'autre jour que je peux dire que l'Europe, finalement, avait beaucoup de mal à exister au plan mondial parce qu'il n'y avait, par exemple, pas d'ambassade d'Europe. C'est-à-dire que les ambassades, c'est toujours l'ambassade de France à Pékin, l'ambassade d'Allemagne à Tokyo. Il faudrait peut-être passer au stade. L'ambassade d'Europe, vous voyez, dans ces espaces.
Alors, il y a des représentants de l'Union européenne dans beaucoup de pays, bon, qui correspondent à des ambassades. Mais c'est vrai que ça, c'est une prérogative, j'allais dire nationale. Imaginez qu'on demande à la France, à l'Allemagne, à l'Italie et à l'Espagne de ne plus avoir d'ambassadeur au Japon, mais qu'il y aurait un seul ambassadeur, qui serait l'ambassadeur de l'Union européenne. Bien sûr, ce serait pertinent, mais aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Les Français ne seraient pas d'accord. Les Italiens non plus. Les Espagnols non plus. Moi, oui, député européen, je dis c'est l'idéal, parce que d'abord, on rationaliserait les dépenses, tout ce qu'on veut, et puis on aurait une représentation vraiment physique de l'Union européenne.
L'Europe, c'est 5% de la population mondiale.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est quand même...
Voilà.
C'est la plus grande puissance économique du monde, quand même. Ce ne serait plus le cas, d'ailleurs, si la Grande-Bretagne, si le Royaume-Uni quittait. On serait deuxième derrière les États-Unis.
Bon. Pour l'instant,
on n'en est pas là. Mais c'est vrai, oui. Oui. Pour plusieurs raisons. D'abord, je le disais tout à l'heure rapidement, à part la France, l'Allemagne, mais qui ne s'en sert pas, le Royaume-Uni et un peu la Belgique, les pays européens n'ont pas d'armée, n'ont pas de défense. N'ont pas d'armée. Ils se sont toujours retranchés derrière la protection des Américains. Ils n'ont pas d'armée. La France a une armée puissante. L'Allemagne aussi a une armée puissante, mais dont elle ne se sert pas, parce que pendant longtemps, elle n'a pas eu le droit de s'en servir. Voilà. La Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni, a une armée puissante. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de force militaire. Donc seuls ces pays-là sont en capacité aujourd'hui à intervenir sur des théâtres d'opérations extérieures. Donc c'est la raison pour laquelle la France est intervenue au Mali d'abord, et en Centrafrique ensuite, et heureusement d'ailleurs que la France est intervenue, même si en Centrafrique c'est très compliqué, au Mali aussi d'ailleurs, en Centrafrique c'est très complexe, mais on a été aidé un peu par les Belges nous ont aidés avec leur aviation, leur transport de troupes, mais aujourd'hui, alors on me disait aussi, j'ai un de mes collègues UMP qui est président de la commission de la défense du Parlement européen, il m'expliquait par exemple que quand on fait un hélicoptère en Europe, on fait des hélicoptères européens, Eurocoptères. On fait des hélicoptères européens. Chaque pays a une petite revendication. Par exemple, la Tchéquie va dire, moi je veux un marchepied comme ça, pour monter dans l'avion, dans l'aéronef. Donc un peu différent, donc on va faire un hélicoptère un peu différent. L'Italie va dire, moi le poste de pilotage, je le veux un petit peu différent. Donc là, il y a un problème, c'est sûr. Et on sent bien qu'il y a une réticence de la part de ces États à intervenir sur les théâtres d'opérations extérieures, parce qu'ils ne sont pas habitués, parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas dans leur culture cette culture de l'intervention. D'abord, ils ne sont pas pour la plupart des puissances coloniales, anciennement coloniales, qui ont conservé des relations avec les pays qui leurs anciennes colonies, ce qui est le cas de la France, par exemple. Alors, vous pouvez me parler du Portugal, de l'Espagne. Mais c'est pour ça que la France et la Grande-Bretagne sont les deux plus actifs sur les théâtres d'opérations extérieures. Voilà l'explication.
Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez comme...
Je rêve pas sur la mise en œuvre d'une défense européenne. C'est pas pour demain. Ça me paraît difficile. Je pense qu'il faudrait quand même que les pays qui sont en capacité de le faire, je pense à l'Allemagne par exemple, participent un peu plus à ces efforts. Parce que sinon, ça repose essentiellement sur les épaules des Français. C'est nous qui payons, hein. C'est le maintien de ces troupes dans ces pays-là. Donc ce serait nécessaire que les pays qui sont en capacité de le faire nous aident à le faire. Et c'est ce que s'évertuent à faire nos autorités nationales. Notre ministre de la Défense, breton, notre ministre des Affaires étrangères, essayent de motiver les autres pays à nous rejoindre dans ces théâtres. Mais encore une fois, ce n'est pas gagné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Alexandre Anissès, je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure des pays nordiques qui ont saisi l'intérêt des institutions européennes. qui ont saisi l'intérêt des institutions.
Ouais.
Comment est-ce que vous expliquez qu'en France aujourd'hui, les Français sont pas, ne saisissent pas cet intérêt? Et est-ce que...
On le disait tout à l'heure, un problème de communication, si tu veux. Vas-y, ouais.
Je
t'ai coupé, excuse-moi.
Pourquoi est-ce que dans les pays nordiques, cette communication s'est bien faite?
Parce que je pense que déjà, culturellement, la France et les Français sont extrêmement, comment dire, jaloux de leurs prérogatives. C'est un peu le village gaulois. C'est Astérix. On aime bien décider nous-mêmes de ce qu'on doit faire. On n'aime pas qu'on nous explique à travers une directive européenne il faut que le tabac soit plus cher, il faut que ceci, il faut que cela, ça on n'aime pas. On aime bien le décider nous-mêmes. Donc c'est un problème de culture. Alors que les pays nordiques, en effet, ne sont pas du tout choqués par l'idée qu'une union économique et politique, désormais, leur dise il faut faire ci, il faut faire ça. Donc je pense qu'il y a un problème culturel en France. Il n'y a jamais eu une adhésion vraiment, j'allais dire, unanime des Français pour l'Union européenne. Hein. Vous le disiez tout à l'heure. Hein. C'est à un moment, la gauche était très opposée à l'idée d'Union européenne. Aujourd'hui, elle est très européenne, et tant mieux. Mais ça a été long, ça a été compliqué. Celui qui a fait le déclic, c'est Jacques Delors et quelques autres avant lui, mais Jacques Delors est l'homme qui a façonné l'Union européenne moderne. C'est Jacques Delors, et c'est un homme de gauche. Donc, je pense que ce sentiment a été en plus exacerbé par la situation de crise qu'on traverse actuellement. Parce que pour certains hommes ou femmes politiques français, ça a été facile de dire, si ça ne va pas, c'est à cause de l'Europe, dans ma propre famille politique. J'ai beaucoup de mal à convaincre mes collègues députés ou sénateurs de la nécessité d'une Europe forte. J'ai beaucoup de mal. C'est pas simple. Et je sais que c'est vrai dans les autres formations politiques. Donc, vous voyez, alors, on parlait des pays nordiques, mais sachez qu'en Espagne ou qu'en Italie, en Italie, c'est un peu moins vrai, mais en Espagne et au Portugal, les citoyens sont profondément européens. Plus qu'en France. Vous regarderez les résultats des élections européennes et vous verrez le taux de participation en Espagne, au Portugal et en France. Vous comparerez et vous verrez qu'il y a eu beaucoup plus de gens à aller voter en Espagne et au Portugal qu'en France. Et ce n'est pas des pays nordiques. Donc voilà. C'est une partie de l'explication. Hein. C'est pas grave. Alors, c'est deux interventions différentes. Non, mais la première intervention de Van Rompuy, quand il dit aux Italiens, c'est pas le moment des élections, mais c'est le moment de l'action, il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce qu'il y a des moments de crise où il faut être pragmatique. Il faut faire preuve de pragmatisme. Il faut prendre des décisions. C'est pour ça qu'il fallait faire un gouvernement technique, comme il a été fait à l'époque. On est revenu maintenant à un gouvernement plus politique. Et donc, je pense qu'il avait raison. C'est un moment où l'Europe doit dire, justement, il faut prendre des décisions pragmatiques. C'était vrai pour la Grèce, c'était vrai pour l'Italie, il fallait le faire. Par contre, s'agissant... Le deuxième, c'était le traité de libre-échange. J'ai voté contre au Parlement européen. Parce que je me méfie toujours. J'ai beaucoup de respect pour mes amis américains. Mais quand ils insistent pour faire un traité de libre-échange, je me dis, oulala, ils vont nous baiser quelque part. Je me méfie. Donc, par principe, J'ai dit, attendez, il faut voir d'abord. Donc là, c'est vrai, mais la Commission, c'est une chose, le Parlement et le Conseil des chefs d'État, c'en est une autre. Donc maintenant, la Commission n'est plus toute puissante, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les OGM. C'est vrai aussi pour le traité de libre-échange avec les États-Unis. Il faudra que tout ça soit validé par le Parlement européen. Et nous serons saisis, à la rentrée, de ce traité de libre-échange. Donc, la représentation des peuples prendra une décision. Alors, elle le validera ou elle ne le validera pas. En tous les cas, elle ne le validera pas dans l'État. Parce que c'est trop facile. Il y a sûrement un loup là-dessous. Voilà. Donc moi, je suis très circonspect sur ce libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Très clair. Par contre, l'intervention de Van Rompuy, qui est plutôt un homme modéré, je pense qu'elle était, elle était nécessaire au moment donné où il l'a fait. Au moment où il l'a fait, quoi. Même si ça pouvait paraître comme étant un geste antidémocratique, bien entendu. Mais il y a des moments où il faut dire stop, et Mario Monti est arrivé. Mario Monti a fait un gouvernement de coalition et de gens plutôt techniciens que politiques, et a permis ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire le redressement de l'Italie, même si les élections ont compliqué les choses avec l'émergence de Pepe Grillo et des partis populistes. Les ultra-libéraux.
Les ultra, oui, oui.
Moi, je suis libéral.
Oui, oui. Et de dire, je dis bien, il faut qu'il y ait des libéraux. Parce que, enfin, je pense que ça va être un débat dans votre famille.
Ah oui, oui.
Et de dire que si on ne parvient pas à un accord avec les États-Unis, on va se retrouver sous la norme chinoise.
Alors, c'est ce que disent certains.
Ouais. Alors, qu'est-ce que cette norme chinoise, sachant que, bon, je pense que c'est aussi une forme de capitalisme d'État, là.
Oui. Bon,
et de l'ultra-libéralisme en même temps.
C'est un ultra-libéralisme.
Oui, oui. Oui, mais avec quand même
une régulation de l'État, oui, bien sûr.
Donc, est-ce que cette idée-là de la. Parce que, bon, c'est une idée médiatique, est-ce que ça a un sens politique, cette norme chinoise, une existence, une réalité ?
Ça me semble être un argument un peu facile.
Ouais.
Ça me semble être un argument un peu facile et essentiellement politique, et pour susciter justement la réaction et dire bah oui, il vaut mieux que ce soit avec les États-Unis qu'avec la Chine.
Ouais.
Voilà. Donc, je pense que l'Europe est capable de vivre sans un traité de libre-échange avec les États-Unis. À mon avis, donc et y compris de vivre avec en face d'elle la Chine et en face d'elle les États-Unis. Donc moi, je pense que c'est pas du tout nécessaire. En tous les cas, c'est pas indispensable.
Mais le paradoxe étant que personne ne semble soutenir ce traité,
sauf la Commission.
Et voilà, ah oui, sauf la Commission. Nicole Bricq qui a autorisé d'ailleurs.
Sauf José Manuel Barroso et ses amis.
Ils sont donc vraiment les ultras.
Voilà. Et M. De Gucht, qui est un ultralibéral néerlandais, qui est commissaire au commerce. Karel De Gucht, retenez bien son nom. Vivement qu'il s'en aille. Vivement qu'il s'en aille.
Voilà. Alors, d'autres questions ? Oui ?
Le poste de ? Bah, je pense qu'il... Attends. Je pense qu'il est. Alors, il faut qu'on identifie l'Europe. Bon. Le haut commissaire aux affaires étrangères, Mme Ashton, a pour rôle, théoriquement, de représenter l'Union européenne sur la scène internationale, dans les négociations internationales. Il se trouve que quand on a décidé la création de ce. Dans le cadre du traité de Lisbonne aussi, tout ça, c'est une suite de tout ça. Quand on a décidé la création de ce poste, en quelque sorte, il a fallu désigner quelqu'un. Moi, j'ai rien contre Mme Ashton. Mais Mme Ashton, elle est là parce qu'elle représente une sensibilité politique, que c'est une femme et qu'elle est britannique. Moi, je pense qu'il faut d'abord chercher quelqu'un de... Je ne dis pas qu'elle est incompétente, mais de très compétent en matière d'affaires étrangères, de très représentatif, éventuellement, si possible, de charismatique et de représentatif. C'est ce qu'elle n'a pas. Pour que, justement, cette personne puisse représenter l'Union européenne dans les négociations avec les autres pays ou avec les autres unions économiques. Et son poste, à mon avis, était important, très important. Ben, on l'entend pas. Mais Van Rompuy, on l'entend pas non plus. Hein. Donc, voilà. Van Rompuy, on l'a choisi, lui, non seulement. Alors, on l'a choisi parce que, justement, il faisait pas de bruit. Parce qu'il parlait pas, il disait rien, et qu'il était tellement discret qu'il était transparent. Voilà pourquoi on l'a choisi. Bon. Demain, c'est bientôt. C'est au mois de septembre prochain, on va élire au suffrage universel dans le Parlement le président de la commission. Et automatiquement, on élira quelqu'un de charismatique. Je ne sais pas qui ce sera. On en a parlé un petit peu ce midi, je ne sais pas. Mais de toute façon, ce sera quelqu'un qui représentera l'Europe, qui représentera bien l'Europe et qui aura une légitimité qu'il n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a simplement la légitimité de la Commission elle-même, puisque la Commission, c'est une entité morale à elle toute seule, la Commission, c'est-à-dire la somme de tous les commissaires. Demain, il y aura un président de Commission qui sera vraiment l'image de l'Europe dans le monde. Et si en plus il est accompagné et appuyé par un haut commissaire ou une haute commissaire aux affaires étrangères, représentatif ou représentative, eh bien je pense que l'Europe prendra plus de poids qu'elle n'en a aujourd'hui sur la scène internationale. Petite pour la route ? Non ?
J'en ai une.
Alors, c'est parti.
Dans un autre registre, mais comme je sais que vous êtes également à la tête de la commission sur l'eau.
Commission locale de l'eau.
Mettons du chantier, enfin, de la question des algues vertes.
Ah !
Ça peut être un peu long, enfin.
Si vous me mettez sur les algues vertes, vous pouvez aller chercher vos sacs de couchage, parce qu'il y en a pour un moment, là. Mais. Mais. Il faut savoir que la baie de Saint-Brieuc, le bassin hydrographique de la baie de Saint-Brieuc, c'est 50% des algues vertes en France. Bon, donc c'est...
Non,
Saint-Brieuc, c'est 50%. Bon, donc c'est quand même énorme. D'abord, on a mis en place la commission locale de l'eau. J'en ai été le premier président et je suis le président depuis la création, en 2006. Ça fait bientôt 8 ans. Aujourd'hui, on a validé notre SAGE. Schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il a été approuvé par le préfet et par le ministère et par le comité de bassin. Par ailleurs, en 2009, on a eu la visite, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu à l'époque un cheval qui était mort à Plestin. Donc, on avait eu Moi, j'avais interpellé le Premier ministre, qui est un de mes amis, c'est François Fillon, et qui était venu avec, à l'époque, Chantal Jouanneau, qui était secrétaire d'État à l'écologie, et Bruno Le Maire, qui était ministre de l'Agriculture. Et il nous avait proposé de mettre en place des comités algues vertes. On avait comme préfet de région un homme d'ailleurs de grande qualité à l'époque, il est toujours très bon, mais à l'époque c'était Michel Cadot, qui était très, très impliqué dans les affaires agricoles et d'environnement. Et donc on avait décidé collectivement de confier aux commissions locales de l'eau, en l'occurrence celle de la baie de Saint-Brieuc, celle de la baie de Lannion, et celle de Fouenan, là où il y a des algues vertes, la mise en œuvre des comités algues vertes. Aujourd'hui, on en est où ? On a mis en place une charte de territoire qu'on fait signer à tous les agriculteurs sur la baie de Saint-Brieuc. On en est arrivé à 80%. On sera à 90% de signatures dans 3 semaines, à peu près, 15 jours, 3 semaines. Ça veut dire que tous ces agriculteurs se sont engagés vers des pratiques beaucoup plus responsables. En matière d'azote, en matière de fuite d'azote. Puisque vous savez, pour qu'il y ait des algues vertes, il faut 3 éléments. Du phosphore, de l'azote et de la lumière. Je schématise, il faut quelques autres éléments, mais c'est à peu près ça. On sait que la lumière, on ne peut pas influencer. On ne va pas mettre un toit sur la baie de Saint-Brieuc, ça ne va pas être facile. Du phosphore, du biodisponible, il y en a plein partout dans la nature. Le seul élément sur lequel on peut travailler, c'est l'azote. Et l'azote, c'est évidemment les fuites de lisier, des élevages de porcs notamment. Pas seulement, mais notamment des élevages de porcs. Donc, ces 1 500 agriculteurs sur les 100 000 hectares du bassin hydrographique de la baie de Saint-Brieuc ont signé une charte dans laquelle ils s'engagent à modifier leurs pratiques. Ça veut dire qu'on voit déjà, parce que les efforts ont commencé il y a plusieurs années, mais on voit déjà une baisse significative des taux de nitrate dans les cours d'eau costa-armoricain. Cela étant, c'est très long. Il faut savoir qu'une goutte d'eau, pour qu'elle aille de la tête de bassin, c'est-à-dire en amont, à peu près à 20 km, 25 km de la mer, jusqu'à la mer, il lui faut une dizaine d'années. Donc si elle est chargée en nitrate, il faudra 10 ans pour y aller. Donc ça ne va pas se régler en 2 ans ou en 3 ans. Mais on voit déjà des progrès significatifs en termes de concentration de nitrate dans les eaux, dans les cours d'eau. Donc, les progrès sont déjà là. Il faut qu'ils continuent. Et grâce à comment dirais-je, à l'engagement des agriculteurs, eh bien, on va y arriver. Ce que je veux souligner aussi, c'est que ça, c'était un exercice de démocratie extraordinaire, dont je serai fier toute ma vie, c'est d'avoir réuni dans un même amphi, enfin dans un même hémicycle, les ONG, Eau et Rivière, vous connaissez peut-être, France Nature Environnement, et en face, je dirais ensemble, les agriculteurs, et les faire travailler ensemble, et les faire prendre les décisions à l'unanimité ensemble. Et ça, je peux vous dire, j'en suis pas peu fier.
Vous dites les agriculteurs, c'est...
La Chambre, ouais. La Chambre d'agriculture, les deux, tout le monde, ouais. Tout le monde dans la même salle, les élus, les services de l'État. Et toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. Ce sera sans doute dans ma carrière politique, j'en ai fait des choses, hein. J'en ferai encore, j'espère, mais ce sera sûrement une des choses dont je serai le plus fier. C'est ça, d'être parvenu à faire s'entendre tous ces gens-là, qui par définition ne sont pas faits pour s'entendre. Voilà. Et donc, on avance, et on avance très bien. Alors ça, c'est pareil, tu parlais de communication tout à l'heure. Les algues vertes, on en parle quand ça ne va pas. Quand il y en a des algues vertes, quand il y a des sangliers qui meurent dans les algues vertes, quand il y a des chevaux qui meurent dans les algues vertes, quand il y a des 1,50 m d'algues vertes, ça on en parle. Mais par contre, quand on arrive à faire des choses pertinentes, des choses qui permettent d'avancer justement dans le bon sens, alors là tout le monde s'en fout, à commencer par les journalistes. Parce qu'évidemment ça va. Alors, quand ça va, ça ne les intéresse pas, parce que ça ne va pas leur faire vendre du papier. Hein. Donc voilà. Mais sachez qu'en tous les cas, il y a des progrès significatifs, indiscutables et indiscutés, puisque les scientifiques les valident. Voilà.
Bien.
Écoutez.
D'optimisme.
Ah oui, toujours, il faut être optimiste. Alors surtout, encore une fois, je vais me répéter, mais mieux vaut se répéter que se contredire, comme disait un vieux collègue. Allez voter le 25 mai. Ouais, tu doutais bien que j'allais dire ça. Hein. Mais allez voter le 25 mai et faites voter le 25 mai. Voilà. Et surtout, faites voter pour des partis européens, quel que soit le parti d'ailleurs, et pour des partis qui soutiennent l'Europe. Voilà. Merci à tous. Merci à vous pour vos questions et votre attention.